Quentin Gruel, Pascal Bernheim.
Mourir, déjà, c'est bête. Mais mourir bêtement, eh ben, c'est plus bête encore. Cet après-midi, Nicole Fontana et moi-même proposons de vous raconter 5 épisodes insolites pour illustrer le décès de personnalités de l'Antiquité, de la moins originale à la plus inattendue. Leur trépas donc, hein, pas les personnalités elles-mêmes, évidemment. Au premier abord, cette classification pourrait vous paraître totalement subjective, mais vous verrez qu'il y a une certaine, comment dire, évidence dans la progression de l'insolititude. Oui, je sais, on ne dit pas insolititude. Moi, si. Certaines des histoires de notre classement du jour sont légendaires et pas vraisemblables pour deux ronds. Toujours est-il qu'elles nous ont été rapportées par la tradition. Et voilà pourquoi elles figurent dans ce classement. Bonjour et bienvenue.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers,
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Selon gagne mon rêve américain,
moi plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans,
cela ont-ils jamais lu le Coran.
Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Cher à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Manhattan, Kaboul, c'était Renaud et Axel Red.
Marie-Hélène et Marie-Claude, vous allez disputer cette première manche que nous débutons avec les chiffres.
10, 5, 25, 6, 1 et 2. 5.
Voici, il le dit. Hein. Connaissez-vous Milon de Crotone ? Eh bien, c'est un type qui s'appelle Milon et qui est né à Crotone. Oui, on devrait dire d'ailleurs Crotone, puisque cette ville se trouve en Calabre et qu'en 557 avant Jésus-Christ, eh ben, elle s'y trouvait déjà. Milon de Crotone. Faut bien faire gaffe à l'accent tonique, hein, parce que sinon ça fait Milon de Crotone et c'est pour le moins pas très heureux, disons. Je vais donc revenir à l'usage courant, d'autant que Milon de Crotone était un athlète. Il a gagné son premier titre olympique de lutteur à 13 ans, en 540 avant Jésus-Christ, dans la catégorie junior. Et ensuite, il se l'est joué à la Fédéraire, Fédéraire qui vient d'écraser un Français, comme nous l'a dit Frédéric Pfeiffer pendant les informations. Et Milon de Crotone sera sacré 6 fois périodonique. Mais il n'a pas reçu de Rolex pour autant, lui. Parce que, attention, un périodonique, c'est pas de la roupie de Sansonnet. Parce que pour se voir sacré périodonique, il faut remporter les 4 concours majeurs de l'Olympiade, c'est-à-dire les Jeux Olympiques à Olympie, les Jeux Isthmiques à Corinthe, les Jeux Pythiques à Delphes et les Jeux Néméens à Némée. Némée, riante cité du Péloponnèse. Némée, nous, on arrive à pied depuis les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 après Jésus-Christ, d'où l'expression « Némée par les pas de Grenoble ». Ouais, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, les exploits sportifs de Milon de Crotone, c'est intéressant pour vous croquer rapidos le portrait du gonze. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa mort. Selon la légende, Milon, parvenu à un âge avancé, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais le sport, ça conserve. Donc, parvenu à un âge avancé, Milon traversait l'Italie façon touriste, mais chassait le naturel et y revient par la fenêtre. V'là-t-il pas que mon Milon croise le chemin d'un vieux chêne abattu, dont le tronc est déjà un peu fendu. Pour frimer devant les ragazze, Milon décide de jouer les fournisseurs de petits bois en voulant achever de fendre le tronc du vieux chêne à main nue. Mais, comme tout le monde le sait, sauf Milon, bah ouais, c'est un sportif hein, quand même. Comme tout le monde le sait, c'est pas à un vieux chêne qu'on apprend à faire le coriace. Chatouillé par les tentatives de Milon, l'arbre se réveille d'un coup et retrouve son état d'origine. L'autre andouille, tout accaparé par son numéro de Monsieur Muscle, Milon n'a pas le temps de retirer ses mains assez rapidement avant que la matière ligneuse du chêne René se referme sur ses doigts. Non, il s'appelait pas René, le porte-gland. Il est René, du verbe renaître au passé composé. Bref, Milon reste finalement prisonnier de l'arbre. Du coup, les ragazzi se barrent pour aller boire un spritz sur une terrasse. Et le soir venu, Milon, les mains prises comme dans un étau, trouve qu'il commence à se faire tard. C'est alors qu'arrive une meute de loups affamés. Et comme il ne peut pas se dégager, eh ben Milon, il se fait manger par les loups. Voilà.
Ce sont les meilleurs mercenaires au monde. La seule vie qu'ils connaissent, c'est la guerre.
Je prends les 4 à gauche. Concentre-toi sur les 2 à droite.
Je vous propose au choix. Oui, prendre l'acte de santé ou une virée en enfer.
Dans 10 secondes, vous allez voir ce qui va sortir.
Oui. Je suis de retour.
Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, on s'en doute, était chinois. Il est né vers 259 et il est mort le 10 septembre 210 avant Jésus-Christ, puisqu'il se classe au 4e rang des personnalités de l'Antiquité, dont la mort est la plus insolite. Mourir à 49 ans, même dans l'Antiquité et surtout en Chine, qui avait à l'époque quelques méchantes longueurs d'avance sur la médecine occidentale, ça fait quand même jeune. Sinon, Qin Shi Huang était empereur de Chine, mais il a commencé tout en bas de l'échelle en faisant d'abord roi de Qin. Non, ensuite il n'est pas devenu monarque de double kin et de carton, non. Mais il a décidé de mettre un terme à la période féodale chinoise en conquérant un à un l'ensemble des royaumes qui faisaient rien qu'à être à côté du sien. Et c'est comme ça que Ying Zheng, d'abord roi de Qin comme je vous disais, est devenu ensuite l'empereur Qin Shi Huang, unificateur de l'empire de Chine et fondateur de la dynastie Qin. Mais il n'a pas fait que la guerre, Qin Shi Huang. Ça suffit pas pour unifier un empire. Mais non, il a aussi standardisé l'écriture, la langue, la monnaie, les poids et les mesures, ce qui ne l'a pas empêché d'être extrêmement désagréable en régnant comme n'importe quel tyran de base, c'est-à-dire de manière autant cruelle qu'autoritaire, inspiré qu'il était par la philosophie légiste des penseurs chinois qui, à l'époque, prônaient l'absolutisme alors que la féodalité avait sa dose de plomb dans l'aile. D'ailleurs, à propos de plomb, De plomb, mais n'anticipons pas. Si le nom de Qin Shi Huang ne vous dit pas forcément grand-chose, vous le connaissez pourtant. Le fondateur du premier empire unifié de l'histoire chinoise a fait construire un mausolée pour y contenir sa dépouille ainsi qu'une armée en terre cuite, grandeur nature, que les archéologues estiment composée de plus de 12 000 soldats, de centaines de chevaux et de chars qui devaient veiller sur l'empereur dans sa vie après la mort. Cette armée d'argile a été découverte par hasard en 1974 par des fermiers qui creusaient un puits. On a d'ailleurs pu voir une dizaine de ces soldats à Berne il y a 2 ans lors d'une exposition. Parce que l'empereur Qin Shi Huang, sa grandeur lui est tellement montée à la tronche qu'il a fini par succomber à un délire obsessionnel consistant à trouver le moyen de devenir immortel. Par exemple, il y avait un type qui s'appelait Xu Fu, qui prétendait qu'au milieu de la mer, il y avait 3 montagnes d'esprit nommées Penglai, Fangzhang et Yingzhu, et sur lesquelles habitaient justement des immortels. Là-dessus, évidemment, l'empereur a ordonné à Xu Fu de rassembler un groupe de plusieurs milliers de jeunes filles et de garçons et de partir à la recherche de ces immortels. Évidemment, quand Xu Fu est revenu des années plus tard, non seulement il n'avait rien trouvé du tout, mais il avait dépensé un max de pognon. L'empereur a donc cherché d'autres moyens pour devenir immortel en consommant des médicaments et des potions au mercure. Mercure qu'il considérait comme une substance spéciale dont les propriétés augmentaient la durée de la vie. Évidemment, il s'est proprement et sûrement empoisonné. L'empereur Qin Shi Huang est devenu mort à force de vouloir être immortel.
Life is fine, strolling down the street. Feelings divine when our eyes meet. You stop and ask me for the time. I lose myself and get tongue-tied. Butterflies flutter. I can't help but stutter. Oh my God, I think I'm falling in. Oh my God, I think I'm falling in. Oh, I'm sipping on this ice cold beer. I'm trying to hide my fear. Couples kissing everywhere. I can't help but stay. And I'm thinking of you and the things we could do. Oh yeah. Oh my God, I think I'm falling in. Oh, oh my God, I think I'm falling in.
Et voilà, c'est fini comme ça. Mark Kelly, oh my God!
Je suis l'ancien chanteur de Kiss.
Non, c'était vous? Vous pouvez nous faire un petit air de Kiss pour que tout le monde se souvienne?
I was made for love and you, baby.
Nous allons pouvoir commencer, messieurs Laurent Cabrol.
1515.
À vous la main, Bertrand.
Je démonte une soupière et j'achète un Zodiac.
Bien joué, Bertrand. Vous marquez 8 ronrons d'entrée. Gilles, 1, 2, 3.
3. 3. Quand dans la vie on fait auteur tragique, quoi de plus normal et même commun de tragiquement casser sa pipe ? Mais quand on donne plutôt dans le genre comédie, il faut avoir une mort rigolote, voire insolite. Évidemment, les très grands artistes, tout confits de leur supériorité mêlée d'originalité, font souvent preuve d'un esprit de contradiction digne de la surdimension de leur ego enflé. Échille, un des trois grands tragiques grecs, Échille se hisse sur la troisième marche du podium des personnalités de l'Antiquité, dont la mort est la plus insolite. Car on a beau être avec Sophocle et Euripide, on a beau être un des trois grands tragiques grecs, Échille n'en est pas moins de ces contradicteurs intrépides de la logique du bon sens. Un auteur tragique qui n'a pas pu, qui n'a pas su mourir assassiné par une quelconque colère divine, un hasardeux destin funeste ou une stupide querelle de famille quand c'est pas les trois à la fois. Évidemment, quand on a reçu 13 fois le premier prix du concours tragique, quand on a écrit plus de 100 tragédies, ça vous monte un peu à la tronche, même si seulement 7 de ces drames de théâtre sont parvenus jusqu'à nous. C'est d'ailleurs par la tête que la mort frappera Échille en 456 avant notre ère, comme quoi la logique finit toujours par avoir le dernier mot. C'est un historien romain qui donnait grave dans le fait divers People, Valère Maxime, c'est lui qui le premier fait grimper la gravure sur marbre des gazettes en racontant la mort d'Échille dans son ouvrage « Faits et paroles mémorables ». Au cours d'un voyage en Sicile, Échille fut convoqué dans l'au-delà sans autre forme de procès. Par une belle journée ensoleillée, oui, ben on meurt pas toujours avec une météo pourrie de roman policier suédois non plus. Hein. Par une belle journée ensoleillée, alors qu'un doux zéphyr offrait à la température ambiante une clémente douceur, Échille décida de s'aller promener dans la campagne. Vers les midis, faisant fi de toutes les mises en garde des services du feu, Échille se fit griller un cervelas qu'il dégusta en buvant une petite bibine. Une torpeur postprandiale ne tarda pas à gagner le dramaturge repu, lui suggérant une siestounette. Adossé à un rocher, dont l'inclinaison n'était pas sans rappeler celle du fauteuil relax de Papy devant la télé, Échille s'endormit, comme Papy devant la télé. Un aigle survolait la scène, les serres bien refermées sur soi proie, une tortue dont il se languissait de grignoter la chair après l'avoir laissée échoir sur un rocher pour en briser la carapace. Or, la calvitie d'Échille confondit l'oiseau qui lui balança le reptile à coque sur la cafetière, provoquant son décès sur le coup de tête. C'est d'ailleurs à cette triste histoire qu'on doit à l'origine de l'expression aujourd'hui « tombée en désuétude à cause de la protection des Chéloniens ». On ne mange pas de tortue sans casser des tronches. Aïe.
J'ai tiré sur un. Il y en a deux qui sont tombés.
Ça le fait marrer, ça le fait marrer. J'y fasse. On sait aujourd'hui que la fonction de législateur est une activité tout ce qu'il y a de peinard, qui consiste à faire du golf au lieu de se rendre aux chambres afin d'y exercer le mandat qu'on vous a conféré, que vous ont conféré les pigeons qui vous ont élus. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, car la vie du législateur a parfois été mise en péril jusqu'à la mort dans certains cas. Un législateur athénien du 7e siècle avant Jésus-Christ en a fait la cruelle expérience. Outre le récit de sa mort particulièrement surprenante, qui lui vaut de se classer à la deuxième place des personnalités de l'Antiquité dont la mort est la plus insolite, ce législateur a laissé une trace dans notre vocabulaire. Il s'appelait Dracon, patronyme qui a donné naissance à l'adjectif « draconien » pour qualifier une rigueur excessive. Et même si « dracon » ne fait bien évidemment pas référence à quelques pièces de literie particulièrement stupides, la mort de ce législateur est pourtant le fait de morceaux de tissu tout de même assez cons. Ah, il a pris un abonnement, lui. Ah, il est court. Il est... Ah oui, c'est voilà. C'est Chewbacca, il est comme ça. Il arrive, il fait du bruit, tout ça. Puis il dit juste... Puis il se casse. Bon. Alors, je reviens à Dracon parce que, voilà, ah, tiens, il y a une inforoute qui se pointe, mais ce sera pour tout à l'heure. On connaît très peu de choses de la vie de Dracon. Ce qu'on sait cependant, c'est que c'est lui qui a couché par écrit des lois dont l'usage était ancien et dont on pense que personne avant lui n'avait eu la brillante idée de procéder de la sorte. Ces lois condamnaient à peu près tout le monde à mort, même les coupables de petits délits. On comprend donc mieux le sens de l'objectif draconien dont je vous causais juste avant. N'empêche que ce ne serait pas le législateur Dracon lui-même qui serait le créateur de ces lois puisqu'il se serait simplement contenté de les transcrire. Et c'est probablement pour cette raison qu'il existe deux versions différentes de sa mort qui sont parvenues jusqu'à nous. Selon les organisateurs, Dragon serait mort à Athènes, sous des montagnes d'offrandes dont la grande majorité était constituée de vêtements, offrandes données par le peuple de la ville venu acclamer le législateur. Selon la police, c'est la réprobation du peuple face aux lois remises au goût du jour par Dracon qui est la cause de sa mort. Les Athéniens sont tellement furax que Dracon doit s'exiler sur l'île d'Égine, juste en face d'Athènes, dans le golfe Saronique. Mais la fureur voyage aussi vite qu'un législateur en fuite et Dracon meurt à Égine, enseveli et étouffé par les manteaux que les citoyens lui jettent dessus en signe de mécontentement. C'est cette deuxième version de la mort de Dracon qui a été la plus souvent retenu. S'il semble que la version d'un décès dû à un peuple en colère est celle qui est la plus souvent retenue, comme je disais, par l'histoire, c'est peut-être parce que la légende y a évidemment la part belle qui raconte aussi que cette inflexible constitution aurait été rédigée en lettres de sang. Malgré ça, les lois attribuées à Dracon lui valent aussi le titre de fondateur de la démocratie. Oui. Dans la mesure où il en aurait posé la première pierre, parce que cet ensemble de lois, toutes cruelles qu'elles fussent, ces lois s'appliquaient à tout un chacun.
Chérie, jolie, tu papillonnes de rêve en fantaisie. Chérie jolie, tu ris, cheveux au vent, la fleur au parapluie. Si tu croises le vent mauvais, run away, run away, run away. Cours au loin comme tu ne l'as jamais fait. Run away. Clair, du rouge, du vert, de gris. Pas si fort, petite furie. Le loup dort, le loup a de l'appétit. Si tu reconnais le vent mauvais, run away, run away, run away. Cours au loin comme tu ne l'as jamais fait.
Là-bas, il chantait Runaway.
Qui es-tu, étranger?
Jack Campbell à l'appareil.
Revoilà le prince de lumière.
J'ai une très bonne nouvelle. Monsieur T.S. Pivet a pu se libérer de ses obligations. Il partira demain à la première heure. Il ne sera pas joignable. Mais il sera présent à la remise du Freebird et il pourra faire son speech et tout. Bonne nuit, enfin, bon matin.
T.S., je voudrais juste te faire remarquer que quand même... Tu es en train de parler à une poubelle.
Au premier rang des personnalités de l'Antiquité dont la mort est la plus insolite, encore un grec, mais un philosophe cette fois, Chrysippe de Sol, bien connu dans son immeuble. J'exagère à peine car ce qu'on sait de la vie de Chrysippe de Sol est aussi insignifiant que son influence en tant que fondateur de la philosophie stoïcienne a été majeure. En gros, le stoïcisme est une philosophie qui exhorte à la pratique d'exercices de méditation afin de vivre en accord à la fois avec la nature et la raison pour atteindre la sagesse et le bonheur dans un feu d'artifice ataraxique, but ultime de l'existence de l'homme. Dit comme ça, c'est abscon la moindre. Mais heureusement, Épictète résume le beans à travers la maxime latine « Sustine et abstine » qui signifie « Supporte et abstiens-toi ». Pas très fun comme truc. Heureusement, Chrysippe de Sol se rattrape au chapitre rigolade à la fin de sa vie. Précisément le jour de sa mort, dans la mesure où Chrysippe de Sol aimait picoler, c'est déjà pas le mauvais bougre. Un soir de beuverie entre potes philosophes, Chrysippe demande à sa vieille servante de servir du pinard à son âne. Et le baudet révèle une sacrée descente. Mon vieux, j'aimerais pas la remonter à vélo. Bien schlass, le bourricot essaie de choper des figues qui traînent sur la table, mais fume. Et ça fait Marie-Chrysippe. Faut dire que bon, il était bien beurré hein, aussi, et il devait pas souvent lire Pif Gadget, pépère. Du coup, il est mort de rire. Supporte et abstiens-toi. Oui, tu me la copieras. Nicole Fontana a préparé cette émission, Jean-Baptiste Roumain s'en a signé le programme musical et Alexandre Maiora était en régie. Demain, les 5 interdictions les plus surprenantes. J'ai dit une bêtise, il hoche la tête. Adrien Maiora, pourquoi j'ai voulu l'appeler Alexandre? Il y a des trucs comme ça. J'ai dû recevoir, je pense, une tortue sur la tête.
Infotrafic, RTS.
Dans le canton de Fribourg, un déversement d'huile s'est produit entre Fribourg-Sud et Villars-sur-Glâne. Soyez toujours prudents si vous circulez sur cette route.
Paléo 2015, 7 jours de concert du 20 au 26 juillet.
J'apprends la vie à l'envers.
Avec Sting, Johnny Hallyday,
une imitation Fender,
Christine and the Queens et aussi Cœur de Pirate, Patti Smith, Robbie Williams, mais également Yael Naïm, Véronique Sanson et John Baez. Le programme complet sur paléo.ch et sur apps.paléo.ch. Sur la première, retrouvez toute l'actualité musicale du lundi au vendredi à 19h dans Paradiso.
Si tu veux de moi.
À 4h30, c'est Vertigo et mercredi, c'est Cinémo.
Exactement. Mais Pascal alors, Bernot. Vois,
ça va Pierre-Philippe?
Ça va très bien et vous? Il y a une tortue qui se promène dans le couloir, je ne sais pas ce qu'elle fout là.
Bah, je ne sais pas, c'est celle que Machin a lancée sur la tête d'Eschyle tout à l'heure. Il y a un aigle qui a tué. Non, ce n'était pas Eschyle, c'était qui déjà? Je me souviens plus.
C'était un autre.
Oui, c'était un autre.
Un autre, c'était pas Eschyle. Mais enfin, écoutez.
Bon, si, c'était Eschyle.
C'était Eschyle. Bon, le problème, c'est qu'elle est en train de bouffer le canapé des invités.
Alors bon,
si vous pouviez,
je vais aller faire quelque chose.
Agir.
Je vais aller foutre le feu au canapé, comme ça elles n'auront plus rien à manger.
Exactement, c'est voilà. Une très bonne idée.
Voilà, frouche.
À demain.
À demain.
Vertigo, avec le magazine Femina.